Le festival Chahut est de retour dans le quartier Saint-Michel et au-delà. Du 7 au 15 juin, des paroles et des corps explorent les normes et font entendre l'intime.
Pour cette édition 2024 de Chahut, on a la chance de tomber sur des formats en cours de création, des crash textes. Les artistes prennent le risque de montrer une partie de leur spectacle où tout n'est pas complètement écrit. Ce risque, Céline Ripoll l'a pris ce dimanche 9 juin dans le jardin d'Aurignac, en nous présentant son récit intime intitulé « Né le 8 mars 1977, récit d'une femme du Pacifique qui ne le fut jamais ». Avec Aurore, nous avons branché les micros et nous avons vécu ce que nous pourrions appeler une pépite. C'est juste et puissant. Céline Ripoll nous raconte son enfer dans un décor paradisiaque en Polynésie. Elle nous livre son histoire de femme sous l'emprise d'hommes violents. Nous ne pouvions en rester avec nos larmes, nos émotions et nos questions. Alors, c'est Aurore qui a mené ce long entretien avec Céline Ripoll qui nous permet de comprendre sa démarche et son combat.
Céline, donc, oui. On n'a pas pu se voir hier soir parce que j'ai dû m'enfuir rapidement. J'ai été très touchée par ton crash texte, alors on reviendra sur cette expression.
Oui.
En fait, voilà, tu nous as délivré une parole de conteuse sur quelque chose qui t'est vraiment arrivé. C'est de l'autoconte un peu.
Oui, c'est ça. C'était un autoportrait.
Ouais. Effectivement, nous aussi, on a recueilli des paroles de gens assez bouleversés. Moi-même, ça m'a un peu traversée d'émotions. Peut-être on peut partir de ça pour lancer notre discussion, parce que toi, tu disais que bah, du coup, tu réalises, comme c'était un crash texte, donc une première fois, que peut-être il faut que tu mettes en place quelque chose pour que les paroles s'ouvrent, parce que ce que tu dis nous renvoie, nous, alors moi je parle en tant que femme aussi, à ce qu'on a pu vivre.
Oui, je m'en suis rendu compte hier soir, puisque quand ça s'est terminé, une dame m'a demandé tout de suite si... Elle pouvait me prendre dans ses bras, et en fait, c'est moi qui l'ai prise dans mes bras. Elle a pleuré. J'avais laissé des petits papiers pour que les gens puissent écrire leurs idées par rapport à la construction, par rapport, je ne sais pas, s'il manquait des choses ou quoi. Et j'ai une dizaine de petits papiers, et en fait, personne... Si j'ai une personne qui fait une remarque en disant « il manque peut-être ci ou ça », qui sont des parties en plus qui sont préparées, mais que je n'ai pas dites hier soir. Et en fait, les gens parlent d'eux et de ce que ça leur a fait. Céline, bravo pour ce travail qui déclenche en moi des pleurs. Mais peu importe ces larmes, je sais pourquoi elles arrivent. Mais surtout, continue, car ton spectacle ouvrira les yeux des personnes sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Et fera avancer la société. J'espère que cela t'apportera de la sérénité à toi et à tes filles. Couper les processus de reproduction transgénérationnelle. Je te souhaite plein de succès pour ce spectacle et une paix intérieure.
Parce que moi je les connais, les pierres. Moi je les ai vues là, juste là. Et je pouvais plus raconter ça. Je pouvais plus raconter d'histoires. C'était pas possible. Raconter des histoires, raconter la carte postale, les temps anciens. Mais moi, je sais ce qu'il y a écrit derrière la carte postale.
Et je me dis, je ne peux pas laisser repartir les gens en ayant été traversés par ce récit, je pense, hein. Sans qu'il y ait un moyen pour eux de laisser une marque. Mm. Donc je pense que ce principe de petits papiers va être absolument indispensable, une quinzaine de petits papiers suivant les salles, une quinzaine de stylos, et que les gens écrivent, qu'ils écrivent. Chacun donne son témoignage s'il a envie, puisque là, il y en a une qui me dit « je comprends mieux ma mère », etc. Ce fut un moment si sincère, si intense, si touchant. Merci de mettre des mots sur ces sujets. Merci d'avoir un si beau sourire sur des choses aussi crues. Pour tout te dire, j'ai vécu une période où je n'arrivais plus à ressentir la tristesse, je n'arrivais plus à pleurer. Depuis peu, j'ai réussi à accepter mes traumas, à briser ce mur que j'avais bâti en moi. Ton spectacle, témoignage, histoire, m'a fait ressentir que plus que jamais ce que c'est que d'être vivante. Merci pour tes mots qui ont permis de m'aider un petit peu dans ma guérison. Je pense que ce sont des paroles que les gens ont nulle part où laisser ces paroles-là. Comme dit ma mère, ça tombe très bien que tu fasses ce spectacle-là, c'est à la mode. Eh bien, puisque là, c'est à la mode, moi j'ai mis 47 ans à être à la mode. Je pense que, effectivement, waouh, profitons-en. Profitons-en, allons-y, c'est à nous, c'est notre moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est à nous. Et si au moins, en lâchant ces paroles-là, les gens, à un moment, peuvent se dire, je l'ai laissé quelque part.
Ihe, ahe, pehe, rekapene, kouaou.
Peut-être on va recontextualiser parce que
bien sûr.
On a passé des extraits là de ton spectacle, mais est-ce qu'on peut redire de quoi il s'agit ? Donc il s'agit de, on l'a dit, de ton histoire, mais quelle histoire ?
En fait, quand je rentre en France en août 2022, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai quitté le père de mes filles, avec qui j'ai eu 13 ans de vie commune, violente physiquement, psychologiquement, une emprise très importante et en plus un isolement extrême puisque nous étions sur l'île de Pâques, c'est son île, nous étions sur l'île de Pâques et en plus j'étais à l'extérieur du village. Donc c'était très isolé. Voilà.
Il criait, moi je l'avais quasiment tout le temps entendu crier. Je suis allée aux toilettes et criait.
Et donc je me sépare de lui une nuit. Je comprends que je ne peux pas aller plus loin. Une nuit où il essaye de m'écraser 2 pierres sur le visage, sur la tête. Parce que je suis allée danser. C'est le 31 décembre. Donc là-dessus, j'entame tout un processus de thérapie, psychothérapie, etc. Et j'arrive en France, parce que c'est le Covid, donc on est enfermé sur l'île de Pâques, j'arrive en France en août 2022, et quand j'arrive en France, j'ai vraiment l'impression d'avoir tenu bon. Je pense énormément à Ingrid Bettencourt, et j'ai vraiment l'impression d'avoir tenu bon une prise d'otage. Je ne savais pas quand est-ce que je pourrais sortir de l'île, j'ai pris le dernier avion humanitaire, et voilà. Et 2 mois après, je remonte sur scène, et je me remets à chanter, danser, c'est mon métier, les histoires du Pacifique. Et ce festival se terminait par les contes de l'île de Pâques. Et là, au moment où je monte sur scène, je me dis, je ne veux plus raconter d'histoires, c'est fini. Je ne veux plus raconter ces histoires-là, je n'ai plus envie de jouer, de chanter, de danser. Moi, j'ai autre chose à raconter. Et je termine ce spectacle, les gens me disent « Ah, c'est bien, vous avez été initiée alors sur l'île de Pâques, vous connaissez les mystères. » Ah oui, ça, je les connais, les mystères. Ah oui. Et je ne vais pas bien du tout, hein, mais l'organisateur me dit « Céline, je t'ai pris une... Je me suis trompée d'une chambre d'hôtel, tu peux rester une journée de plus, est-ce que tu veux voir le spectacle de clôture ? Demain, c'est un conteur qui s'appelle Yannick Jolin. » Je dis, moi, tu sais, conteur, ça me barbe un peu, j'aime pas ça. Et il me dit, mais c'est Yannick Jolin. Je dis, je sais pas qui c'est. Il me dit, mais c'est le plus grand conteur, il raconte en patois. Oh là là, je suis bon. Mais j'étais pas bien du tout. Donc je me dis, ok, pas de souci, je reste. Et donc j'arrive le lendemain à voir ce conteur. Et là, j'arrive et j'entends ce gars et je me dis, c'est quoi ça? un papitos qui arrive sur scène en traînant sa chaise, et il dégomme les uns, il dégomme les autres, ta, 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 et tout d'un coup, il raconte une version de Barbe Bleue. Et là, bien sûr, je riais aux éclats, et à ce moment-là, je me mets à pleurer, et après, il a fini, je rigole, etc. À la fin, je vais le voir, je lui dis, bah dites donc, merci monsieur, vous avez vraiment soufflé la poussière sur la cheminée des conteurs. Mmh. Puis il me regarde, il me dit, ah, le conteur, ça me fait chier. J'ai dit la même chose hier. On mange ensemble avec toute l'équipe, tout ça. Puis au bout d'un moment, il me regarde et il me dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, moi, je racontais des histoires, mais j'arrête. Ah bon? Pourquoi t'arrêtes? Je dis, parce que c'est nul. Je suis là à danser, à chanter les histoires du Pacifique. Je suis partie collecter ces histoires à l'autre bout du monde. Ça fait 20 ans. Mais en fait, c'est autre chose que j'ai à raconter. Et je lui raconte mon histoire, bien sûr en pleurant, parce que j'étais complètement encore dedans de cette violence que j'avais vécue toutes ces années, les humiliations, tout ce que j'avais perdu. J'ai tout perdu. Enfin, j'ai perdu beaucoup de choses, en tous les cas, matériellement sur l'île de Pâques, et perdu aussi beaucoup d'années. Et il me dit, mais c'est ça qu'il faut que tu racontes. Et j'ai dit, mais je ne sais pas raconter ça. Et il me dit, moi, je vais t'aider. Ok. Mais je ne le connais pas. Et une fois arrivé chez moi, je tape sur Internet et je me dis, c'est quoi ce bonhomme? Et je me rends compte qui est ce monsieur, mais je lui écris, il ne répond pas, il reste peut-être 3 semaines sans répondre. Et un jour, il me téléphone. Alors, Ripoll, qu'est-ce que tu fais? T'as déjà écrit? Je lui dis, ben non, je ne sais pas écrire ça, j'ai jamais écrit ça. Eh ben, il faut écrire. Alors, je lui dis, ben... D'abord, excusez-moi, je ne savais pas qui vous étiez. On s'en fout, il faut que tu écrives. Mmh. Et donc, il commence à m'appeler comme ça tous les 15 jours, ou tous les 10 jours, ou toutes les semaines même d'ailleurs. Et puis, on se voit quand il passe à Bordeaux. Et il me pose des questions, il me dit, ça, faut écrire, ça, faut le dire. Mais qui va s'intéresser à mon histoire? Il me dit, t'inquiète pas, on trouvera, ça ira jusqu'à l'universel. Et en fur et à mesure de nos rencontres, j'apprends à comprendre comment on écrit un spectacle. Parce que moi, je ne racontais que des contes traditionnels que j'avais collectés. Il me fait faire des dossiers, je dépose des dossiers pour des résidences. Je comprends ce que c'est que de défendre un projet et donc pouvoir en parler en amont. Et en un an, même pas, d'abord en quelques mois, je commence à faire ces choses-là et il m'invite à une journée professionnelle. Et à cette journée professionnelle, il me dit, t'inquiète pas Céline, on est entre professionnels, on fait du travail à la table, tu présentes 20 minutes, et puis les autres présenteront aussi 20 minutes d'un truc en chantier. Ok, bon, 20 minutes, ça devrait le faire. Mais j'ai travaillé tellement, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, et puis je me suis dit, bon, on est juste entre nous. Sauf que j'arrive, c'était des journées professionnelles organisées par l'OHARA, au Nombril du Monde, à Pougnérisson. Et là, entre professionnels, oui, mais était 120 professionnels. Et le travail à la table, c'est un terme dans le jargon du théâtre qui veut dire travail en chantier. Et là, je le regarde avec des yeux, avec des mitraillettes à l'intérieur. J'ai dit, toi, tu m'as tiré un piège. Mais en fait, pas du tout. C'est parce que je ne comprends pas son vocabulaire. C'est son monde, c'est pas le mien.
Oui, oui.
Et on s'appelle, je l'engueule, et il me dit, t'inquiète pas, je serai là. Je dis, mais j'ai rien. Il me dit, je serai là. Je suis avec toi sur scène. Et le lendemain, il reste avec moi sur scène, dans une grande sobriété. Et je donne, quasi en improvisation de la nuit, quelque chose en disant, ben voilà ce qui m'est arrivé. Et j'ai besoin d'aide de vous, les professionnels, les théâtreux, les programmateurs, pour monter ce spectacle.
Et il m'a dit, Ihe, Ahe, Behera Kapene, Behera Anna, Anna, Kouaou, Kouaou, Nene, Kouaou, Kouaou, Tipo, et Tipoko, et qui te mate.
Et de ce moment-là, je sens que ça se décolle, mon histoire se décolle de moi de 1 millimètre à peu près. Et là-dessus, paf, je prends la brèche et tac, je commence à travailler dedans. Et je comprends ce travail qui est ce travail d'écriture. Mettre des mots, mettre des images, mettre une structure, etc. Et donc c'était en février 2023 et aujourd'hui on est en juin 2024. Ça fait à peine un an et quelques mois que j'ai véritablement commencé à comprendre ce que c'était que d'écrire. Et j'ai écrit en août 2023 une soixantaine de pages, une nuit entière. Et d'ailleurs en terminant d'écrire, j'écris tout l'après-midi, toute la nuit en entier, et à 6h du matin je pars prendre ma douche, et quand je sors j'ai l'impression d'avoir porté plainte à ce moment-là. J'ai écrit quasiment 60 pages d'affilée de mon histoire. Et donc ça fait 10 mois, et avec ce que j'ai fait là, de présenter ce crash texte hier en marchant dans les rues de Bordeaux pour arriver au lieu de spectacle, j'avais l'impression d'aller au tribunal pour raconter mon histoire. Mais il y avait cet enjeu, parce qu'on sait très bien que la justice n'est absolument pas du côté... enfin, absolument pas. Et très peu ou très difficilement du côté de la parole des victimes. Je ne peux pas dire des femmes, parce que j'inclus quand même... Il y a aussi beaucoup d'hommes. On en parle peu encore, mais il y a quand même des hommes qui sont victimes aussi de ces violences. Mais... oui, j'avais l'impression d'aller au tribunal et j'avais quand même l'impression d'un défi. Qui était avec moi-même, hein, parce que le public est extrêmement bienveillant. Enfin, je le suppose. J'avoue, je le sais, hein, pendant que je racontais, je m'analysais, je savais que j'esquivais quand même les regards. Il y a beaucoup de moments où je n'ai pas pu regarder le public. Déjà, j'étais extrêmement concentrée. À l'intérieur de moi, je tenais les rênes, là. De mes émotions, c'était un très très gros contrôle. Je suis...
Elles sont quand même apparues de temps à autre, et chez nous aussi d'ailleurs.
Mais je ne l'ai pas vue. Ben, j'ai pas vu dans le public.
J'ai vu des larmes monter aux yeux. Ouais.
Ça fait... non.
Si, moi je suis très admirative de savoir transformer un trauma en spectacle et d'arriver à témoigner de cette manière, c'est très fort. Seulement je pense que ça me touche énormément. Et voilà. J'ai beaucoup d'émotions. Après, je la trouve très forte et je pense que c'est très bien que des femmes et des hommes et voilà, puissent entendre ça et que ça peut permettre à certaines de bouger, de rebondir, de voir l'espoir au bout du tunnel, d'agir avant de se prendre un pavé dans la gueule, quoi. Voilà.
Du coup, quand on est touché par un spectacle, c'est peut-être déjà un spectacle réussi ou en tout cas en forme de réussite.
Ah oui, moi j'en ai pas de doute. Je lui souhaite de continuer sa résidence et je suis sûre que ça aboutira à quelque chose de très beau.
Merci beaucoup.
Merci. Je vais me moucher.
Et tu disais, oui, c'est très intéressant là, cet apprentissage de l'écriture théâtrale, mais en revanche, tu gardes ton... on voit que tu es une conteuse quand même quand tu le fais, et avec à ta manière, c'est-à-dire justement avec ce rythme, ces chansons qui apparaissent quand même, ça c'est très beau aussi.
Alors, en tous les cas, à un moment, c'est ce que j'ai dit à Yannick, et j'ai dit, écoute, moi, je ne peux pas faire un truc que je ne sais pas faire. Ça fait 20 ans que je raconte des histoires, je ne sais pas écrire ces histoires, ces trucs de théâtre, là, ces machins, je ne sais pas. Il dit, bah alors, tu fais comme tu sais faire. Ok, donc on a fait un squelette avec Titus. Entre-temps, j'ai déposé plein de dossiers, j'ai gagné une bourse qui s'appelle... Enfin, une bourse. J'ai gagné ce qu'on appelle une résidence d'écriture qui s'appelle la Petite Chartreuse à Pougnérisson, au nombril du Monde, sans qu'il y ait de concertation entre Yannick et Titus. Titus est tombé sur ce dossier, il a dit ça, je prends. Et donc, avec Titus, je lui ai lu mes 60 pages. Il m'a dit, bon... il y a un petit peu trop. On va faire déjà une structure. Et donc, tous les morceaux éclatés que j'avais, on les a remis dans une structure. Pour l'instant, on a fait une structure linéaire.
Oui, chronologique.
À peu près. Avec un flashback. C'est-à-dire, c'est la compréhension de comment moi, je me suis soignée. J'ai choisi ça. C'est-à-dire, le moment de la rupture... le moment où je viens débouler à la police, le moment où ma psychologue me demande de dire ce qui s'est passé pendant 13 ans avec cet homme et comment je me suis adaptée à cette vie. Et pourquoi, parce que c'est la question, c'est pourquoi on reste dans cette emprise. C'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que je pars pas? Eh bien, c'est là où on va chercher dans les... Alors, dans le transgénérationnel, hein, je me suis formée depuis au transgénérationnel, à la psychogénéalogie, aux constellations familiales. Mais comment on vient chercher dans le transgénérationnel? Comment on vient chercher déjà rien que dans l'enfance? Comment le terrain a été préparé? Et ça, ça vient aussi avec les neurosciences, puisque ça aussi, pendant la pandémie, j'ai eu le temps d'étudier deux, trois trucs avec les neurosciences. Comment, en fait, dans la petite enfance, des chemins viennent s'imprimer. Et ces chemins, quand il arrive l'événement traumatique, on le reprend. Ou pas. Mais en tous les cas, dans la plupart des cas, on le reprend. Et donc c'est pour ça que je mets vraiment l'accent, il y a un bon tiers du spectacle qui est sur l'enfance. Et comment moi, on ne m'a pas protégée dans l'enfance, c'était l'époque, c'était comme ça, j'en sais rien. Comment on ne m'a rien expliqué de la violence des choses que je vivais dans l'enfance, comment ça s'est normalisé.
Les Polynésiens, ils disent, tu dois mettre ton passé devant toi et c'est ton passé qui éclaire et qui te guide. Alors j'ai fait, j'ai mis mon passé devant moi, j'ai regardé un à un les pavés, les morceaux d'histoire que mon père, ma mère, mes deux familles avaient positionnés pour que je puisse avancer dans la vie. Et là, j'ai hurlé. Un à un, il a fallu identifier tous les souvenirs et comprendre en quelle matière ils étaient faits. En vase? En ruine?
Ouais.
Des ruines de forteresses, des ruines de blocos, des ruines d'un mur.
Et comment finalement je suis allée rechercher, mais à l'autre bout du monde, dans un univers exotique, pensant, comme disent les gens, on n'est pas des méchants, nous. On est pacifique. On est dans le Pacifique. Ouais. Mais moi, le Pacifique, il ne le fut jamais. Et comment je me suis accrochée à des choses, mais finalement, tant que la question n'est pas résolue, la vie te la resserre sur le chemin. Et il faut vraiment être très humble face à nos capacités de réponse. Tant que tu n'as pas compris, ça revient.
Il y a une histoire d'histoire personnelle, intime, comme tu le décris, dans le transgénérationnel, etc., oui. Mais aussi plus largement, une histoire sociale des femmes. Et d'ailleurs, on a commencé en disant, voilà, les paroles ce sont des femmes majoritairement.
Oui.
Est-ce qu'il y a des hommes
qui ont écrit? Oui, il y a des hommes qui ont écrit, oui. Oui.
Mais il y a quand même aussi ça qui permet ensuite qu'on se laisse aller sur une forme de... Enfin, à être dominée, parce que quand même l'histoire des femmes est quand même une histoire de dominer.
Oui.
Et donc, si on peut revenir sur cette idée de ce que disait ta mère à la mode,
oui.
Et de ce qu'on appelle aussi l'éveil féministe, que moi, par exemple, à mon niveau, je vis, c'est-à-dire d'un coup de me dire, ah oui, comment on a pu accepter tout un tas de choses, je pensais aussi ça qui se trame, et je trouvais ce qui était beau hier dans ce qui se tisse, mais de manière tout à fait sensible et pas du tout dite. Enfin, c'est que on sent un lien dans le public qui se crée à travers l'histoire que tu racontes, c'est-à-dire que voilà, ça traverse comme ça vraiment, et donc une espèce de solidarité face à la violence que toi tu as subie. Et peut-être celle qu'on a subie aussi. Enfin, il y a comme ça quelque chose d'invisible,
c'est très intéressant. Très beau. Ah oui, c'est ouais. Très intéressant ce que tu dis, parce que hier je voyais des femmes qui baissaient la tête. Il y en avait d'autres qui hochaient. Il y en a une ou deux à un moment qui dodelinait de la tête, etc.
Moi aussi, je sentais ça.
Et c'est vrai que j'ai pas compris. Bon, j'étais très concentrée sur mon truc. Je suis sur scène. Je suis la Céline de 47 ans. Mais je viens faire résonner la Céline qui avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'on a laissée dans cette violence masculine. Je n'ai pas parlé de ma mère, mais dans le spectacle, j'en parlerai, en disant aussi les erreurs, des injonctions, très bêtes, hein, tu verras quand tu seras plus grande, quand tu auras un mari. Voilà, je veux dire... Quand mon frère me dit « Céline, tu te rappelles quand t'as coupé toutes les lanières du martinet ?» Je dis « Non, je ne me rappelle pas. » Il me dit « Tu dois te rappeler quand ils en ont racheté un. » Martinet, quand même, c'est fouetté. Voilà, les hurlements, les peurs. Et je comprends ma mère aussi pourquoi elle n'arrive pas à sortir de la sidération dans laquelle elle est, de ses traumas à elle. Et donc, du coup, quand elle agit, elle n'agit pas d'ailleurs, elle réagit. Et elle est dans l'excès de peur, etc. Et donc, elle n'est pas à mon écoute. Mmh. Je le comprends. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent « Moi aussi, j'ai dû faire ça. » Ou « Moi aussi, j'ai vécu ça. » Il faut bien recontextualiser. Ma mère a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu, avec l'histoire de sa mère, l'histoire d'après-guerre, l'histoire de son père, elle, combien elle est dans sa fratrie, comment elle rencontre mon père, le manipulateur détraqué qu'il est. Et elle, dans cette joie de vouloir peindre, de vouloir être musicienne, d'aimer la vie. Mais ça n'existe pas, ces choses-là, à cette époque-là. Et donc, elle fait ce qu'elle peut. Et ça aussi, il faut le dire. Il faut vraiment dire. C'est pour ça que je dis à la fin, je suis nourrie de celles qui ont parlé, mais aussi de celles qui se sont tues.
Mais oui, c'est tout.
De celles qui sont parties, mais aussi de celles qui sont restées. Parce que je me nourris de toutes ces femmes. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Comme aussi beaucoup d'hommes, on peut parler de tous ces hommes touchés dans l'enfance, violés dans l'enfance, humiliés. Ils font ce qu'ils peuvent. Sauf qu'à un moment, il faut les ouvrir les portes. Et c'est ça aussi que je dis. Je les ai ouvertes les portes. Parce que ma mère me dit toujours, ah oui, il faut tourner la page. Non. C'est comme les pistaches. T'achètes des pistaches, tout le monde veut la pistache décortiquée dans le paquet. Non, faut les ouvrir. Et des fois, ça fait mal aux dents. Et bien là, c'est pareil. Faut ouvrir les portes et faut aller les sortir, les monstres. Il faut les prendre. Faut redanser avec eux. Faut même des fois re-rentrer en fusion avec eux. Faut se brûler encore un peu. Mais il faut avoir toujours l'adulte en soi qui retient. Ça, faut pas se lâcher. Et moi, dans ce spectacle-là, c'est ce que je fais. Je relâche ma petite Céline qui a vécu des sacrés trucs horribles. Mais je suis là en adulte. C'est là ma parole conteuse. Et du coup, j'emmène tout le monde à revisiter sa petite Céline à soi.
Et est-ce que ça donne des clés ?
Est-ce que ça donne des clés ? Ouais, moi je dirais qu'il y a quand même des choses auxquelles on sent quand même, effectivement, comme tu dis dans la question, la force de vie qu'il y a dans cette femme. Ça donne envie de fêter la vie, ouais, quand même. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens de tout ça aussi, malgré tout.
Mais faut tenir bon. Moi, je le sais parce que j'ai fait les chemins, l'aller-retour. Je ne devais pas dire quotidiennement, mais plusieurs fois par jour même. Mais c'est bon, moi je l'ai faite, ma thérapie. Là, c'est surtout, aussi à travers ce spectacle, je veux que les gens comprennent qu'on est fait de mémoire. Moi, la mémoire, c'est mon matériau. Je travaille sur les mémoires, je vais collecter à l'autre bout du monde les mémoires, etc. Je veux que les gens comprennent. Tu n'es peut-être pas le maître de tous tes gestes et tu es l'héritier de quelque chose, de deux familles avec des traumas, puisque on a nos grands-parents en gros, au niveau de nos grands-parents qui reviennent de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi on est héritier d'une société. Et là, je n'ai pas eu le temps d'en parler non plus, même si j'en parle un tout petit peu avec ce jeu avec les carabineros qui finissent par me faire comprendre que c'est moi la coupable.
Ouais.
Tant que la justice ne se positionne pas, tant que la justice est faite par des manipulateurs, tant que la société donne encore la part belle aux manipulateurs, il n'y a qu'à voir tous les scandales. Ça, de toute façon, c'est super, c'est à la mode. Tous les scandales présentateurs télé, acteurs, réalisateurs, ils nous ont offert à voir dans cette télévision, qui n'est pas un téléviseur mais un aspirateur, un monde sous leur prisme qui est un prisme de dominateur. Et donc ça fait depuis l'arrivée de toutes ces choses-là que... Waouh, il faut se rappeler les films des années 80, où les femmes soi-disant super libérées, là, les super pretty women, les super nénettes, toujours bien canon bien sûr, hein, qui dansaient enfin libres, avec des petites tenues, des choses un peu moulantes, machin. Qu'est-ce qu'elles attendaient ? Un mec qui les prenne, qui les saisisse, qui soit séduite, qu'elles fassent un peu comme ça, les panthères. Et eux, ils arriveraient comme des cow-boys sur leur show. Wow.
Bien sûr. Ouais,
tout et ça. On est rentré dans des archétypes. Ah ouais, où le prince charmant, il est devenu super testostérone. Et alors la princesse, waouh, super sexy. Mais on était dans le même type de charme. C'est-à-dire, j'attends le sauveur et je vais remettre en lui tout ce que je peux pour m'extirper de ma condition. Et sauf qu'on est allé vraiment on s'est leurré complètement. Et puis c'est surtout de grands manipulateurs qui nous ont donné à voir un prisme du monde. Il y a qu'à voir comment on se réveille aujourd'hui en disant attendez, les femmes de l'histoire. Ah oui, alors on est là ici à Bordeaux notamment, on redécouvre Rosa Bonheur. Et puis on redécouvre là les historiennes, les écrivaines, les artistes. C'est absolument impressionnant, mais bien sûr, c'est vrai. On a toujours parlé des hommes préhistoriques. On n'a jamais dit les femmes préhistoriques. Et ça commence là. Le monde est pas de bol. Lucie est une femme. Mais bon. Non, mais franchement, c'est quand même absolument impressionnant. Et moi, je dois dire merci à des femmes qui ont beaucoup plus d'énergie que moi, qui ont enfoncé des portes, mais à coups de poing. Elles ont défoncé ces portes-là pour dire « il y a des femmes qui existent !» Et on les a traitées de tout, on les a traitées on s'est moqué d'elles, moqué de leur vieillesse, parce que ce sont des femmes vieillissantes, etc. Mais qui s'est moqué d'elle ? Pas nous, les femmes. Enfin, peut-être certaines, mais nous, on leur dit merci parce qu'on réalise au jour d'aujourd'hui qu'il a fallu hériter de ça pour aujourd'hui. C'est même pas des revendications. C'est juste un positionnement. J'ai même plus à revendiquer auprès des hommes. C'est que je n'ai plus rien à... Je ne leur dois plus rien. Et quand on comprend qu'on ne leur doit plus rien, eh bien, on vit en parallèle de leur monde. Ah, il faut ruser. Mais sauf que nous, on connaît leur monde. Eux, ils ne connaissent pas le nôtre. Je parle bien sûr de ces hommes qui sont dans ce patriarcat, etc. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et puis, bah, pour aussi en revenir à à ces grands discours que, ah oui, de toute façon, vous l'avez voulu, être l'égal des hommes. Je crois qu'il y a une chose qu'ils ne comprendront pas, c'est que toute femme que nous sommes, toute personne, même pas toute personne que nous sommes, je crois que nous ne leur ferons pas subir ce qu'ils nous font subir. C'est-à-dire que nous, si à un moment, il y a une petite tache de sang sur leur pantalon, on ne va pas les se moquer. S'ils ont besoin de prendre un jour parce que le gamin est malade, on ne va pas leur faire la réflexion. On ne va pas leur mettre un voile. On ne va pas les forcer à se marier. On ne va pas arriver, leur dire, bah, écoute, puisque tu es un homme, tu auras 25% de salaire en moins. C'est que nous, malgré tout, et c'est aussi ce que je dis dans ce spectacle-là, tout ce que nous avons subi, je parle en tant que société féminine, et je parle moi-même, ce que moi j'ai subi, je ne vais pas le reproduire. Parce qu'on a tellement passé par-dessus ça, qu'on voit beaucoup plus loin, on voit cet horizon. Eux, ils voient encore le caillou sur le bord de la plage. Nous, on regarde toujours l'horizon. On a les yeux sur l'horizon pour faire grandir nos enfants. Mmh. On pense toujours à une autre société, etc. Dans les mille et une nuits, c'est qui tue ? C'est Shahriar. C'est le roi Shahriar qui, tous les matins, veut tuer les femmes parce qu'il s'est fait tromper par sa femme. Alors, il veut toutes les tuer. D'accord. Si vous voulez, je veux raconter mes mille et une nuits à moi. Je vais les prendre, les hommes, les égorger au petit matin. Et tu crois qu'on va en faire un livre, un best-seller ? Non. Non. Mais on est toujours là à admirer cette puissance masculine. Basta, c'est pas de la puissance. C'est de la force, de la domination et de l'écrasement. Ça n'est pas de la puissance. La puissance d'un homme, c'est quand il a les bras fermés, pas quand il a les bras levés. Là, toute la différence. C'est comme ça au jour d'aujourd'hui que je suis dans ma conviction des choses avec ce que je pense qu'il faut qu'on donne des chemins aussi aux garçons pour être fiers d'eux-mêmes autrement. Il est temps que les hommes se moquent et ridiculisent, parce que je crois que malheureusement il n'y a pas trop d'autres moyens de faire tomber de leur piédestal et de leur petit nuage ces mecs dominants qui sont à côté de la plaque, et qui sont à côté de la plaque parce qu'on ne leur a pas donné les cadres corrects dans leur enfance. Il faut aussi comprendre comment on éduque et comment ces gars-là deviennent tout puissants. Il faut comprendre que l'existence et la domination, l'existence par la possession, qui est quand même aussi beaucoup de choses qui sont véhiculées dans les histoires. Si tu arrives à obtenir ceci, à obtenir cela, tu auras ma fille et la moitié de mon royaume.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est pour ça que j'ai jamais aimé les contes français et que je suis partie à l'autre bout du monde chercher des histoires. Les contes polynésiens ne parlent absolument pas de possession, de royaume, de territoire, de... Non, pas du tout. Les contes polynésiens parlent de cette puissance à l'intérieur de soi. Je vais me chercher, moi, dans chaque histoire. Mais ici, c'est toujours, il faut posséder, la nana, elle est là, elle va avoir plein de robes, des bouclettes, le plus gros joyau, le plus gros diamant. Mais en fait, on a pensé que c'était ce qu'il nous fallait à l'extérieur. Et donc, on s'est mis à vouloir posséder. Mais quand on veut posséder quelque chose, on veut aussi posséder l'autre. L'esclavage en est vraiment un résultat édifiant. Et de toute façon, il y a une grande relation entre l'esclavage, la domination des femmes et aujourd'hui, l'exploitation de la nature. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je domine, je me sers. Il faut repenser notre système à l'autre et aussi à la nature. Et c'est la même organisation dans les villes. Je vais de l'extérieur, paf, je pénètre à l'intérieur et je travaille au centre. Tout ce qu'il y a à faire en périphérie, les enfants à l'école, le médecin, le conservatoire, etc. Ça, c'est les femmes qui font les zigzags. Les hommes, direct. Et il faut bien comprendre, toute la société, elle est construite comme ça.
Je voulais finir, puisque tout ce que tu racontes, ça travaille autour d'une norme. Et comme la thématique de cette année de Chahut, c'était « hors norme », finalement, ce que tu décris, ce serait construire un hors-norme plus respirable pour nous toutes. En gros, la question de la norme, comment elle est travaillée dans ta tête et dans ton spectacle ?
Alors, dans ma tête, je crois que j'ai toujours été un peu dans les... J'étais dans les marges, mais j'étais très correcte dans les marges. Hein. J'ai toujours eu peur de moi, hein. Ça, c'est clair. J'ai toujours eu peur de moi-même et de l'immense qu'il y avait en moi-même, de cette énergie très, très forte. Mais je suis toujours restée dans les cadres, dans le cadre entre guillemets. Comment il faudrait repenser au-delà de penser une société, je ne suis pas capable de penser une société. Ça fait appel à des choses très complexes. Je dirais déjà, repensons nous-mêmes, positionnons-nous nous-mêmes. Quand toi, tu te positionnes différemment, déjà les enfants se positionnent différemment, les amis, le compagnon ou pas, s'il n'y en a pas, c'est très bien. Tout est très bien. C'est ça aussi, c'est que la norme, c'est il faut être en couple. Oui. Il faut bien voir, la société, Vous achetez un truc, c'était le prix. Vous en achetez deux avec votre mari, c'était le prix. Ben non. Ben non. Tout est fait, un appartement est fait pour être acheté à deux. Les crédits sont faits pour être obtenus à deux. Une voiture, le prix d'une voiture, c'est fait pour être acheté à deux. Mais une maman toute seule, non. Donc là, il faut vraiment que... Mais bon. Donc déjà, je pense qu'il faut se repositionner soi-même, se documenter énormément, ça ne se fait pas tout seul, se documenter, se poser des questions, se confronter à la vie, oser ouvrir les portes, oser s'essayer. Non, ça je ne fais pas parce que j'ai été traumatisée une fois, je ne ferai plus. Oui, mais maintenant que tu as mûri, voyons voir, réessaye. Moi, j'ai essayé d'avoir aussi d'autres aventures, des débuts d'aventures avec des gens... déjà par rapport à l'affectif, mais aussi me repositionner, et j'ai vu que les choses étaient soignées. Mmh. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mmh. C'est que c'est pas des échecs à chaque fois. Les choses sont soignées. Et puis ensuite, quand déjà on peut peut-être éduquer ses enfants ou rayonner différemment auprès des autres, et bien petit à petit, ça changera. Et puis ceux qui ont l'énergie, ceux qui ont le vocabulaire, ceux qui ont les connaissances, je pense notamment à une femme comme Simone Veil, qui ont ces postes-là et qui sont capables de faire ce qu'elle a fait dans son époque. Eh bien voilà, très bien. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, je suis à un autre niveau, je suis sur scène, déjà j'éduque mes deux filles, je parle avec les gens, je suis sur ce petit rayonnement-là. Et puis il y a des femmes qui ont plus de visibilité, Judith Godrèche en ce moment, qui c'était absolument merveilleux et en même temps terrifiant de voir comment en public, interview après interview, elle prenait conscience. Mmh. Mmh. Ça a été une transformation. Je pense qu'elle a dû avoir une armée de psychothérapeutes derrière elle, parce que c'est terrible. Il faut bien comprendre qu'on se construit avec des espèces de murs qui sont faits de bouts de ruines. Et quand tout d'un coup, on ouvre les yeux, tout explose. Mais il faut qu'on tienne bon parce qu'on a le travail, parce qu'on doit toujours être souriante, parce qu'il faut toujours être belle et mince, surtout. Et puis, on a les enfants. Et puis, vous inquiétez pas, c'est juste à ce moment-là qu'il y a un rappel d'impôt, il y a ceci, il y a cela. Waouh. Donc... il y a des femmes, géniales, elles ont ce statut-là, elles peuvent nous aider à nous. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui sont peut-être plus dans un côté peut-être plus populaire, plus accessible. Je ne sais pas si des gens oseraient embrasser Judith Godrèche à la fin de son interview, mais moi, il n'y a pas de problème. J'ai pris plein de gens dans mes bras. Je comprends aussi notre société française, qui manque énormément de tendresse.
De contact.
Et En Amérique du Sud et en Polynésie, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Mais alors, la France, qu'est-ce qu'on est dur, qu'est-ce qu'on est froid. Non, votre enfant est né dès le premier soir, il faut qu'il soit dans son lit et dans sa chambre. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus personne qui te prendra dans tes bras. Dans ses bras. C'est terrible. C'est terrible. On n'est pas absolument pas là en train de se tripoter, pas du tout. C'est ça que les gens. Ah oui. Quand je vais dans les écoles, que je raconte, que je fais mes spectacles, et qu'à la fin les enfants ils veulent des bisous, des câlins et tout. Je vois. Oui, mais nous on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'encore une fois, il y a toujours ces pervers, ces dominateurs, ces manipulateurs qui sont venus. Polluer ce rapport humain qui est un peu de tendresse, une main sur une épaule, un gamin qui en a besoin. Donc c'est terrible. Mais je pense que plus on en parlera et plus on aidera, on s'aidera les uns les autres à tenir.
Bon. Eh ben, merci Céline Ripoll. Oui. Finir sur cette vertu de la parole pour le Festival Chahut, ça tombe bien quand même.
Oui, et vraiment, mon coup de chapeau à ce festival, parce que un crash texte, c'est aussi oser proposer à son public, en l'avertissant bien sûr, quelque chose qui n'est absolument pas fini. Et d'ailleurs, le mien, c'est vraiment de l'embryon, C'est parfois du déballage. Donc il faut un public, réceptif et puis accueillant, capable de dire oui, bon ben, il reste du travail, merci beaucoup. Mais il faut oser, c'est ça qui est quand même extraordinaire. Il faut oser ne pas montrer que du lisse, que du bien fait, que du normé, justement, et montrer que le travail artistique, c'est étape après étape, après étape, après étape. Et que ce que tu vois aujourd'hui, même si c'est pas bon, retourne le voir demain ou après-demain et tu verras. Et les choses, il faut les voir, et nous sommes des artistes et donc des personnes complètement humaines et c'est comme je vous le disais, hein, moi hier en arrivant à la salle, j'avais l'impression d'entrer au tribunal. C'est quand même pas rien. Alors que les gens se disent, c'est quoi ces artistes? Ben ouais. Nous, c'est des petits enjeux, des petits enjeux. On joue notre vie parfois sur certains textes. Ben moi, c'était le cas hier. Donc vraiment, je remercie cette programmation du Festival Chahut qui permet d'oser ces paroles-là.
Très bien. À bientôt.
Merci.
J'ai compris que j'étais nourrie de ces graines, de toutes ces femmes, toutes celles avant moi. Celles qui avaient été insultées, celles qui avaient été humiliées, celles qui avaient été trompées. Les agressées, les violées, les battues, les empoisonnées, les étranglées, les brûlées, les démembrées. Oui. Oui. J'ai compris que j'étais faite de toutes ces graines-là. J'ai compris que j'avais en moi la mémoire de toutes celles qui étaient mortes avant moi, de toutes celles qui avaient rusé, de toutes celles qui avaient aussi survécu, de toutes celles qui avaient lutté, de toutes celles qui avaient parlé. Voilà.
Pendant tout le festival, retrouvez les podcasts réalisés par La Clé des Ondes sur laclédesondes.fr et sur le 90.10.